j'étais en conversation avec Jean-Bernard Hébert. Bonjour Jean-Bernard.
Allô Hélène, comment vas-tu?
Jean-Bernard, ça va bien. Oh. Jean-Bernard, comédien, producteur et un homme à la recherche d'un stationnement qui est arrivé à la course. Contente de vous voir. Ben, moi, je vous vois mes invités. Je serais portée à te tutoyer parce qu'on
se connaît quand même depuis plusieurs années.
Oui.
Parce qu'on a des amis communs.
Oui.
Puis,
on s'était rencontrés par hasard dans
Exactement.
Une caisse populaire à Val-d'Or à l'époque.
J'étais en tournée en 1990. J'étais en tournée avec Béatrice Picard, Gisèle Dufour, Luc
oui.
Durand.
Et moi, j'étais à CKVD 900.
Cette belle Hélène que j'avais connue quelques années auparavant, qui était une amie de Guy Lafrance, qui était, on avait des amis communs.
Ouais.
Et ben depuis ce temps-là, on a toujours, ouais. On s'est toujours suivis. J'avais des nouvelles de toi via Guy, tout ça.
Ouais.
Tes sœurs aussi. T'sais, bon, petit Guy m'a toujours parlé des sœurs Denis, tout ça. Donc,
Guy Lafrance, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un comédien.
Exactement.
Excellent comédien, mais on ne peut pas vraiment profiter de son talent parce qu'il est en France. C'est un Québécois qui vit en France depuis les années 80.
Et j'ai été témoin du début de cette histoire d'amour.
Ah c'est, oui, il a rencontré
là
l'amour là-bas.
Ce mois de février, ce samedi soir de février 1988. Et puis, je crois qu'il a épousé sa merveilleuse femme, Christine, quelques mois plus tard.
Ouais, ouais.
Et même pas un an plus tard, il y avait déjà cette belle
Marmaille.
Cette belle Marmaille.
Trois enfants
qui ont passé la trentaine
oui,
maintenant.
Oui, oui. Guy est grand-père.
Je l'ai
déjà reçu à ce micro parce qu'il avait participé à un projet. Il avait été responsable d'un projet qui avait été présenté à Montréal.
On s'était rencontrés à ce moment-là.
Et on écoutait du Serge Fiori. C'est ton
Seigneur,
époque
oui.
aussi, Jean-Bernard.
C'est mon époque. Moi, j'ai commencé toute cette époque-là, 1974. Bon, j'étais adolescent, évidemment. Pour moi, Harmonium, Fiori, Beau Dommage, c'était pour moi des icônes.
Ouais.
Je voyais Paul Piché, je voyais, puis même, je vois encore souvent Paul Piché aujourd'hui, puis mais Robert Charlebois, puis son fils Jérôme, avec qui je suis devenu depuis le temps, devenu des bons copains, des bons amis. Et je suis toujours, quand je les vois, là, je manque, j'ai plus de bras, j'ai plus de mains, j'ai plus de... J'ai vu Michel Rivard récemment, il y a peut-être un an dans son spectacle, là, sa pièce là, qu'il a fait sur l'origine de mes espèces, l'origine de notre...
Oui.
Qu'il avait monté justement Claude Poisson, qui avait fait la mise en scène.
Claude Poisson qui n'est plus.
Qui n'est plus. Et à chaque fois, je vois ces monstres sacrés, devrais-je dire, je suis...
C'est une chance de les côtoyer que tu as, j'imagine que
Je l'apprécie.
Tu l'apprécies beaucoup.
Je l'apprécie. Monsieur Fiori, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, par contre. Mais je veux dire, écoute...
Oui, parce qu'il était quand même malade. Puis c'est quelqu'un qui aimait les gens, mais il vivait quand même assez loin.
Exactement.
Là, il était au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
À Saint-Henri-Taillon, Lac-Saint-Jean. Et puis, je pense que la dernière fois que je l'avais vu, c'était quand il avait fait Fiori Symphonique, là, il y a quelques années.
Oui, oui.
J'avais tellement aimé ça.
Un beau spectacle, paraît-il, que je n'ai pas vu. L'origine de mes espèces, c'était
L'origine de mes espèces.
Tu l'avais.
Oui, c'était de Michel Rivard. Que,
oui.
C'était tellement bon.
Michel Rivard qui racontait, parce que là, il y a plein d'artistes qui racontent leur lien avec Serge Fiori. Et ils ont déjà habité une maison de campagne ensemble. Michel Normando avait acheté une maison de campagne, paraît-il. C'était une bicoque. Mais ils ont fait de la musique dans cette maison-là. Serge Fiori, lui, travaillait de nuit et il l'appelait Capitaine Sommeil. Michel Rivard disait qu'il a failli faire partie de Fiori Séguin.
Exact.
Ils ont... failli être un trio.
Un trio.
Mais finalement...
Et je pense arrêter un feu d'artifice.
Oui, mais ce l'est déjà.
Ce trio-là aurait fait quelque chose ensemble, là.
Ça aurait été certainement quelque chose de qualité,
oui. Oui, oui.
Mais il faut dire que le duo Séguin et Fiori, ça marche.
On était dans le champagne, là.
Ah oui, succès de 1978, ça nous ramène loin, mais c'est toujours bon. On écoute ça aujourd'hui, puis on se dit, j'ai envie de l'écouter plus souvent, cet album, puis aussi l'ensemble de l'œuvre de Serge Fiori. Alors, on parle aujourd'hui de Le Placard.
Oh, bon
Est-ce que c'était un film avant d'être une pièce de théâtre?
Exactement. J'étais à Paris à peu près 4 ans, et je sors justement du métro Place des Abbesses, dans le merveilleux quartier Montmartre, et je vois sur une marquise Le Placard. Ah, je dis, mon Dieu, il me semble que ça fait pas longtemps que le film, il ressorte le film, je trouvais ça bizarre.
Ouais.
Et là, je vois en haut, Théâtre des Nouveautés. Et là, je vois Adaptation théâtrale. Écoute, le soir même, moi, j'avais adoré le film avec Depardieu, Daniel Auteuil, et puis Michel Larocque, Jean Rochefort,
ouais,
Thierry Lhermitte.
Super distribution.
Une distribution en béton armé. Et
la
j'avais vu
de...
ce film que j'avais adoré. Et là, le soir même, je suis au théâtre et je vois l'adaptation de Weber. Elle est magnifique. Le lendemain, je demande les droits et je reviens au Québec avec les droits. Mais là, on était presque... On était dans le COVID, là, tu sais, c'était pas question. Ouais. Donc, j'ai dû recaler. Et moi, il n'était pas question que je fasse le placard sans avoir mon François Pignon que je voulais, qui était Sébastien Dodge.
Pourquoi lui?
Ah, écoute, il est exceptionnel. C'est le vrai François Pignon.
Ah oui, c'est lui le vrai.
Je pense que vous êtes natif du même patelin. Ah. Il vient de Pincourt.
Ah, bien oui. C'est à côté de Vaudreuil-Dorion,
À côté de Vaudreuil-Dorion, donc il a grandi là. D'ailleurs,
il y a du talent
Guy
par là.
La France, il y a du talent par là. D'ailleurs, Guy La France
vient de Pincourt. Ouais.
Et la grand-mère de Sébastien Dodge était directrice d'école là-bas, à Pincourt, bon. Mme Dodge.
Et
était
Clément
supposément une femme là, de tempérament. Et voilà, donc je voulais absolument avoir Sébastien Dodge pour jouer, évidemment, François Pignon. Qui est le personnage fétiche, évidemment, de Weber? Parce que, bon, on retrouve François Pignon dans le Dîner de cons, on va le retrouver dans la chèvre, on va le retrouver dans... Évidemment, et pour moi,
est-ce que c'est toujours le même acteur en France qui jouait François Pignon?
Ils l'ont, oui, en France...
Thierry Lhermitte?
Oui, mais ça a changé. Il y a eu Villeray qui l'a joué, il y a eu plusieurs personnes. Mais pour moi, François Pignon, il faut que ça soit joué avec une sincérité et une... Parce que...
Pas de cabotinage.
Ah non. Moi, je l'ai vu, François Pignon, jouer justement, je veux dire, de façon très anecdotique. Et après 10 minutes, c'est inintéressant.
Ah non.
J'ai le bonheur d'avoir Sébastien Dodge pour jouer ce François Pignon-là parce que il apporte une dimension au personnage. Il est dans une sincérité, dans une vérité qui est implacable, qui est bonne.
Mais qu'est-ce que ça raconte, le placard, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu
quelqu'un
parler
qui a
de
le placard, c'est ce la film pièce ou commence. Cette pièce. Pignon, enfin, ça commence mal pour lui. Il perd sa femme le plaque, il perd la garde de son fils, et là, il perd sa job.
Bon, il perd tout.
Il perd tout.
Ou
et
presque.
Là, il décide de... Bon, là, c'est assez, là, j'ai assez de merde dans ma vie, là. Je décide de sauter en haut du 4e et de me jeter en bas.
Oh.
Et là, il vient pour se jeter en bas, et au même moment, arrive un personnage qui dit « Non, sautez pas en bas, là, vous allez scraper ma voiture. » Excusez-moi pour l'anglicisme. Mais en fait...
Il y a du cœur, hein, cet homme-là qui dit ça.
Et ce monsieur-là arrive à entrer chez lui et lui dit, écoute, là, je ne pars pas d'ici tant que tu ne vas pas adresser la parole. Et c'est extraordinaire parce que avec ce personnage-là, il va trouver un superfuge pour lui faire retrouver son emploi. En fait, ce n'est pas compliqué. Il dit, à partir de maintenant, on va prendre cette photo-là, on va mettre ton corps dessus, ta face, et tu vas passer pour homosexuel. Mais là, je ne suis pas homosexuel. Mais
c'est quoi le rapport?
C'est que pour regagner son... Parce que lui, il travaille dans une usine de condoms. Donc, pour regagner son travail dans une entreprise comptable, il va se faire passer pour homosexuel, ce qui n'est pas du tout. Mais ce que Weber démontre à partir de ce moment-là, c'est que c'est pas Pignon qui va changer. C'est le regard des autres qui va devenir tout à fait autre chose. T'sais.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le fait qu'il se fasse passer pour homosexuel, là, ça l'aide plus, à garder son emploi?
C'est très simple. C'est que finalement, comme il travaille, il est comptable dans une usine de condos, le patron, qui est joué par moi, a peur de perdre toute la communauté LGBTQ. Là. C'est une question du fric. Non, puis je dis, ravi de vous voir, M. Pignon. Votre congédiement était une erreur. J'ai le grand plaisir de vous dire que vous faites toujours partie de notre merveilleuse équipe. T'sais. Donc, c'est... Et tu vois ce qui change? Pignon ne change pas, mais c'est l'environnement autour de lui, le regard des autres.
Ouais.
Et ça, Weber réussit à faire un tour de force avec cette pièce.
Parce que c'est quand même délicat.
Il nous fait rire,
hein?
Il nous fait rire, mais il nous fait réfléchir en tabarouette.
Ouais.
Et nous, pour l'avoir joué, bon, en tournée, l'avoir joué beaucoup, on le reprend parce que c'est vraiment, je veux dire, à la demande générale, tu sais, on a eu beaucoup de demandes, puis là, la demande débordait les cadres, donc c'est pour ça qu'on le reprogramme dans un beau théâtre à Rougemont, presque tout neuf, qu'on a rénové au cours de la dernière année.
Mais c'est la première ce soir?
On
aux premières
demain.
Médiatiques, 25 juin?
C'est demain.
OK, c'est demain.
On commence
25
demain.
Juin.
Ce soir, c'est la générale publique.
Ah, d'accord.
J'avais toujours le village.
Ah,
oh,
c'est bien,
le 25,
ça.
Là,
et le village est au rendez-vous?
Oui, le village est au rendez-vous.
Oui. Et quel genre d'humour
c'est une
présente
pièce
la pièce?
Brillante. C'est une pièce brillante. C'est un humour qui est extrêmement... c'est une pièce, comme je vous disais tantôt, Hélène, qui fait rire beaucoup, mais qui fait réfléchir aussi beaucoup.
Ouais.
C'est brillant. Weber possède une plume, moi, je veux dire, parmi tous les autres auteurs français que moi j'ai connus, puis bon, Dieu sait, j'en ai présenté. Il y a Éric Assou, Francis Weber, puis je vous dirais, là présentement, Florian Zeller, qui sont des auteurs extrêmement prolifiques et extrêmement brillants parce que Ils ont sorti, parce que pendant longtemps, je dois vous dire que dans les années 60, 70, et même au début des années 80, le boulevard français là, était un petit peu folklorico traditionnel.
Ouais, ouais.
Donc, c'était toujours des histoires de coquillages, de mari trompé, okay. d'amant dans le placard. Habituellement, c'était souvent le père autoritaire, un peu boqué, le fils rebelle, la Mais petite sœur un peu gnognoche, puis la maman un peu... T'sais, faiseuse de ragoût de boulette puis de cuisse okay. de poulet. Là.
Bon. T'sais, c'était...
Mais là, on n'est plus là-dedans. Là. On est avec ces auteurs-là.
Le fait que François Pignon se fasse passer pour un gay, est-ce que c'est un terrain glissant qui peut...
C'est qu'en fait, ce que Weber a voulu dénoncer...
Créer un malaise.
Créer un malaise. Puis deux, le message qui passe, c'est regardez, là, Pignon n'a pas changé. C'est votre regard à vous autres qui a changé. Lui, il ne change pas. Là.
C'est,
bon, évidemment, à la fin, tout ça bon, finit très bien, évidemment. Vous l'aurez deviné. Mais au-delà de ça, c'est la réflexion de Weber. Je ne dirais pas que ça crée un malaise. Mais ce que je peux vous dire, Hélène, pour l'avoir joué beaucoup, puis en région, puis on l'a joué bon plus d'une fois, on détecte par les gags, par les punchs, les gens qui ont des comportements homophobes versus... les gens qui sont pro-gays. Tout ça est là, tout ça est omniprésent.
Ah, oui.
Et il y a eu certains publics, certains soirs, là, que ça dérangeait un petit peu.
OK. Alors, il faut arriver avec une ouverture.
Absolument.
Ouais.
Absolument.
Est-ce que ça crée des discussions? Est-ce que ça crée des
débats? On en a eu.
Des débats?
Très, très, très. Puis il y en a, je veux dire, qui avaient compris la pièce à l'envers. Puis il y en a d'autres, ben je veux dire, pour eux, c'était... une découverte. C'était « wow ». Premièrement, qui est ce comédien fabuleux, Sébastien Dodge, que les gens connaissent peu.
Oui, qui est bien entouré aussi.
Parce
hein?
qu'il n'est pas connu commercialement, mais je veux dire, c'est un comédien extraordinaire. Il y a également Hugo Giroux, Stéphane Jacques, qui relève Raymond Bouchard, qui était de la première distribution. Il y a également Élodie Bégin, là, qu'on a vu évidemment beaucoup à la télé cette année. Myriam Poirier, Marc-André Poliquin.
Et Jean-Bernard Hébert.
Et Jean-Bernard, qui fait partie de la distribution, un incontournable.
Oui, bien, ça vous arrive souvent de jouer dans les pièces que vous produisez, Jean-Bernard?
Ben, souvent, oui, j'ai souvent joué parce que je dois vous dire que quand j'ai parti ma compagnie en 1900, ça fait 40 ans cette année.
Bien oui, vous allez célébrer
hasard,
ça.
Hein? C'est un hasard. C'était en fait... puis ça, j'en parle parce qu'il y a un auteur, un journaliste qui est en train d'écrire un livre sur les productions Jean-Bernard Hébert, justement.
Lequel, les journalistes?
C'est Yannick Comeau,
okay.
qui est en train d'écrire...
l'histoire des productions
l'histoire
Jean-Bernard,
productions Jean-Bernard Hébert, un gars qui a beaucoup d'une culture théâtrale énorme et puis qui avait
ça
vu à peu près toutes mes pièces.
Ah oui?
Et là, il me demande, l'homme d'affaires. Je dis, j'ai jamais été un homme d'affaires de ma vie, moi. Moi, je suis un homme de théâtre en affaires. C'est pas pareil. C'est par hasard que j'ai découvert, j'avais un talent pour ça. En 1984, quand Mme Ridaise, qui avait son théâtre d'été à Chelsea, est arrivée, elle m'a dit, écoute, ma fille est malade, je dois être à son chevet, tu t'occupes du théâtre. Bon, c'était plus drastique que ça. Elle dit, vraie clé du théâtre, tu t'en occupes.
Oh, tout
donc,
un défi.
Oui, il fallait s'en occuper, puis il fallait voir à tout. La billetterie, la nourriture pour les comédiens, jouer, nettoyer les costumes, poser les affiches, vendre les billets.
Et vous êtes toujours là, 40 ans plus tard.
J'étais là dès le début, de 9h le matin à minuit soir. Et après ça, je veux
faut
dire,
y croire,
40
hein?
ans plus tard, je suis toujours là.
Oui, oui. Et comment vous allez célébrer les 40 ans des productions Jean-Bernard?
On va fêter cet été.
JBH.
Les productions JBH vont fêter cet été. Mais le grand rendez-vous, ça va être à l'Outremont, Théâtre Outremont, le 13 septembre prochain. Parce qu'à la fin d'été, je fête les 40 ans de la compagnie en reprenant un grand classique qui a fait un malheur quand j'ai créé il y a 25 ans, 12 hommes en colère,
mm-hmm.
avec une toute nouvelle distribution, une l'adaptation aussi, nouveau metteur en scène. Alors, c'est Alain Zouvi qui a fait l'adaptation, la traduction et l'adaptation.
Comme Alain Zouvi qui s'est occupé du placard, de l'adaptation et de la mise en scène du placard.
C'est passé, on s'est rencontrés il y a 7 ans, on se connaissait déjà, mais là, on a commencé à travailler ensemble il y a 7 ans et il s'est passé une espèce d'osmose, une espèce
ça
de
clique.
Coup de foudre. Là.
Ouais.
Au niveau,
c'est
on
merveilleux,
a les
ça.
mêmes, enfin,
vu.
Nos visions, nos... tout correspond. Comprends-tu? Donc, tu sais, c'est pareil comme quand tu mets tu fais ton sandwich aux tomates.
Il y a une chimie, là.
La mayonnaise avec les tomates, la salade, puis le jambon, tout va ensemble. Tu sais, je veux dire, c'est puis le pain est bon.
La recette
lève. La recette est parfaite.
Est-ce que il a décidé, Zouvi, de conserver la superbe musique de Vladimir Cosma
pour la pièce?
Avez-vous eu les droits pour le placard?
Le placard? Non,
non,
c'est Christian Thomas qui a fait... qui a fait...
la musique.
La musique. Christian Thomas, là, qui a fait la musique.
Oui.
Et puis, non, c'était un petit peu compliqué.
Oui, ça doit.
Mais pour 12 hommes en colère, juste dire, c'est Alain qui fait la mise en scène, mais une distribution là, éblouissante. On va retrouver Claude Préjean, Philippe Thibault-Denis, Olivier Berthiaume, Hugo Giroux. Il y aura également Maxime Isabelle, Claude Despins, ben, Claude Préjean, Jean-Pierre Chartrand, je l'ai nommé, Étienne Pilon, il y aura également Sébastien Dodge, et il m'en manque un, Marc-André Poliquin, voilà.
Vous jouez pas dedans, là?
Oui, je joue dedans, okay. Oui, je suis dedans.
Alors, cette fois, on va avoir l'occasion de vous réinviter, parce que c'est trop intéressant. Le Placard est présenté au Théâtre Rougemont du 25 juin général pour le village ce soir jusqu'au 26 juillet, jeudi, vendredi, samedi également en après-midi.
Exact.
Et puis à l'espace diffusion à Cowansville du 1er au 17 août.
On s'en va à Cowansville après.
Vendredi, samedi, le soir et dimanche à 15h. Grand merci. C'est ici qu'on se quitte, Mathieu? On va se laisser avec une des chansons de Serge Fiori qui fait partie de son album Héritage. Le plus récent qui est sorti en 2014. La musique, la chanson s'appelle Jamais. Et on entend aussi la très, très belle voix de Monique Fauteux dans cette chanson. Merci, Jean-Bernard.
Hélène, ça fait plaisir.
On a la à tout bientôt. On est sous des bains durs. Comme des vrais jumeaux qui sont collés.